France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbeau.
Aujourd'hui, les objets fractales.
Ça ressemble à quoi?
C'est une péninsule. Que dis-je? C'est un cap. C'est un pic. C'est un roc.
J'ai l'impression que c'est un peu répétitif.
Mais justement, c'est ça qui est bien.
Oh, c'est de toute beauté.
Prenez un chou romanesco, la côte bretonne ou un cristal de glace. Il y a dans ces trois objets de dimensions très différentes un phénomène d'auto-similarité. Que vous vous approchiez ou que vous vous éloigniez, la forme géométrique reste la même. Ce sont les fractales. Ces monstruosités mathématiques étaient impossibles à approcher par la géométrie classique, mais elles ont toujours été là. C'est Benoît Mandelbrot qui les débusque et leur donne un nom en 1975. Ce mathématicien touche à tout a mené une carrière atypique, loin des standards académiques, et c'est sûrement cette immense curiosité qui est à la fois à l'origine de cette découverte, mais également d'un manque de reconnaissance par ses pairs. Comment Mandelbrot a-t-il mis le doigt sur un phénomène presque ubiquitaire dans la nature? Quelles sont les prémices et les très nombreuses applications de ces bizarreries mathématiques? Comment les fractales ont-elles changé le monde? Et pour nous raconter cette histoire irrégulière, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Jaffard. Bonjour.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes mathématicien dans l'équipe de recherche analyse harmonique et multifractale du LAMA à l'université Paris-Ascreteil. Et à nos côtés également Marcel Filoche, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Institut Langevin de l'ESPCI au sein de l'université Paris Sciences Lettres. Avant de plonger dans l'histoire de cette découverte, j'aimerais qu'on puisse détailler un petit peu les différentes caractéristiques des fractales. On va voir qu'elles sont partout. Le plus simple étant de prendre les exemples dont j'ai déjà parlé. On en trouve dans la nature. J'ai pris l'exemple du flocon de neige, du chou romanesco et de la côte bretonne, mais on pourrait ajouter les nuages, les sapins ou les galaxies. La caractéristique première, c'est le phénomène d'auto-similarité. Stéphane Jaffard, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer de quoi il s'agit exactement?
Oui, alors c'est effectivement la caractéristique des fractales et c'est la grosse différence avec la géométrie classique, ce que Benoît Mandelbrot appelait Euclide, et l'autosimilarité, comme vous l'avez très bien dit, c'est le fait qu'un objet est similaire à lui-même quand on zoome, quand on le regarde avec une loupe, avec un microscope, on voit pas forcément exactement la même chose. Alors pour certains objets mathématiques, c'est exactement la même chose. On parlera peut-être de l'ensemble triadique de Cantor, des choses comme ça. Ou le plus souvent, et c'est ce qui se passe en général dans la nature, c'est pas exactement la même chose, mais ça a la même allure. Voilà. Donc l'exemple typique qui a été remarqué à de nombreuses reprises avant Mandelbrot, en fait, c'est effectivement les côtes, par exemple la côte de Bretagne, mais les premières remarques, en fait, remontent à l'Antiquité. Hein, les marins athéniens, à un moment, on leur avait confié la mission de mesurer la côte de la Sardaigne, et ils n'arrivaient pas à trouver une bonne longueur, parce que quand ils se rapprochaient et qu'ils faisaient des mesures plus précises, la longueur augmentait. Voilà, et c'est une remarque qui a été faite ensuite à de nombreuses reprises. Il y a un très beau texte de Delacroix où il fait la même remarque dans son journal et ensuite de Jean Perrin. Voilà, donc ça, c'est typiquement des côtes, c'est l'exemple typique de cet effet d'autosimilarité.
On va venir justement aux prémices. Un mot aussi, un synonyme finalement de cette autosimilarité, c'est le concept d'invariance d'échelle, et c'est ce que vous commenciez à dire, Stéphane Jaffard, c'est le fait que si on prend deux types d'objets, on a parlé par exemple du chou romanesco, il est un petit peu parfait. C'est un objet un petit peu parfait, mais si on prend un chou-fleur, tout n'est pas tout à fait auto-similaire, mais il y a toujours cette invariance d'échelle qui est moyenne finalement, Marcel Filoche. C'est important de voir qu'il y a une moyenne justement dans cette invariance d'échelle, dans cette forme d'auto-similarité.
Oui, absolument. Alors donc, bon, on est à la radio, mais vraiment, j'enjoins les auditeurs à prendre leur moteur de recherche favori et à les regarder, à taper fractal, parce qu'ils vont découvrir un univers absolument extraordinaire de formes, de couleurs, de choses extrêmement visuelles. Mais dans la nature, les fractales des mathématiques telles que les mathématiques pures les ont, peuvent les décrire de façon déterministe, on en rencontre assez peu. Ce qu'on va rencontrer, c'est un mélange de ce concept d'invariance d'échelle, qui va être là, et d'objets probabilistes. C'est-à-dire que vous allez zoomer, et comme a dit Stéphane, vous allez retrouver quelque chose qui ressemble, qui est vraiment de la même famille, vous pourriez pas le distinguer, et vous continuez à zoomer, et vous avez encore une nouvelle, ce qu'on appelle une réalisation. Alors, dans la nature, vous avez quelques rares objets qui sont des fractales déterministes, c'est-à-dire, quand vous zoomez, vous avez exactement la même chose. Donc, le chou romanesco, allez voir à quoi ressemble un chou romanesco. Chaque fois que vous zoomez, c'est exactement le même chou romanesco. Un chou-fleur, un chou-fleur de Bretagne, quand vous zoomez, ou quand un nuage, quand vous zoomez, il y a des bosses toujours un peu à toutes les échelles, mais c'est pas exactement les mêmes, pas aux mêmes endroits. Voilà. Donc, il y a ces deux concepts de invariance d'échelle qui est permanent, qui va partout, et de probabilité, de hasard.
Stéphane Jaffar, j'aimerais qu'on puisse en venir aux prémices. Vous avez commencé à le mentionner, mais avant de venir à Jean Perrin, j'aimerais qu'on puisse parler peut-être d'un constat d'objets mathématiques très étranges. Par exemple, la fonction de Weierstrass. On voit qu'il y a des sortes de bizarreries, en fait, qu'on n'arrive pas à comprendre. Et pour l'instant, on n'est vraiment pas dans le réel. On est vraiment dans la pure mathématique. Quelles étaient finalement les preuves, bien avant Mandelbrot, de ces fractales, avant qu'elles n'emportent le nom?
Voilà. Alors en fait, c'est des notions mathématiques, on peut dire des objets mathématiques, qui sont apparus essentiellement au 19e siècle, au moment où il y a eu un effort conceptuel des mathématiciens pour formaliser l'analyse. Donc un premier problème qui a été vraiment une ligne centrale de recherche durant tout le 19e siècle, c'est à partir du moment où le mathématicien français Cauchy a défini de façon précise la notion de fonction continue, les mathématiciens se sont demandé est-ce qu'une fonction continue, finalement, est-ce qu'elle est ce qu'on appelle dérivable dans la plupart de ses points, c'est-à-dire est-ce qu'on peut coller une tangente, peut-être pas partout, on est bien conscient qu'il peut y avoir des angles, mais disons au moins en certains points. Donc ça c'était vraiment un problème central de l'analyse mathématique au 19e siècle, et voilà, la réponse définitive, elle a été donnée par un contre-exemple célèbre de Weierstrass, un mathématicien allemand, à la fin dans les années 1870, qui construit sa célèbre fonction de Weierstrass. Donc, qui est un exemple de fractal. Si nos auditeurs tapent fonction de Weierstrass sur Internet, ils vont voir quelque chose qui est très clairement, qui a une autosimilarité, je dirais, déterministe, hein, au sens que disait Marcel. On zoome, on voit vraiment la même chose à toutes les échelles. Et si on avait une précision infinie, ça irait jusqu'à l'infiniment petit. Voilà. Mais il faut bien être conscient que ces objets-là, ces fonctions particulières, il y en a eu des tas d'autres au 19e siècle, elles jouaient juste le rôle de contre-exemple. Voilà. On veut juste montrer qu'une notion mathématique, elle a certaines propriétés, elle n'a pas d'autres propriétés, et donc on construit ce qu'on appelle un contre-exemple mathématique. Et voilà, il y a eu tout ce que Mandelbrot appelait ces fonctions, qu'il appelait des monstres, et qui pour les mathématiciens n'avaient d'intérêt que de montrer les limites d'une théorie et n'avaient pas d'intérêt en eux-mêmes. Et l'un des grands apports de Mandelbrot, ça va être de dire, mais tous ces objets, ils sont intéressants, j'ai envie de les regarder. J'ai un ordinateur, ce qui n'était pas le cas de Weierstrass, et donc son grand avantage sur Weierstrass, et c'est beau, c'est intéressant, ça a des tas de caractéristiques que j'ai envie de décrire, j'ai envie de comprendre la structure de ces objets-là.
Un autre mot, Marcel Filoche, justement sur les prémices des fractales et de Mandelbrot, quels sont pour vous les points peut-être importants, peut-être en venir justement à Jean Perrin ou un autre exemple selon vous qui est un peu
oui absolument. Donc là pour Jean Perrin,
il faut rappeler qui est Jean Perrin.
Oui, Jean Perrin c'est un des plus grands expériments. Alors on est à la fin du 19e, début du 20e siècle, c'est un des plus grands expérimentateurs français, il va recevoir le prix Nobel pour ses travaux, et c'est quelqu'un qui, avec Einstein, va comprendre la nature du mouvement aléatoire des particules et d'un phénomène qu'on appelle la diffusion, et notamment, il va montrer, et de façon expérimentale, qu'est-ce que est la structure d'un mouvement aléatoire qu'on appelle le mouvement brownien. Alors le mouvement brownien, ça a été découvert par Monsieur Brown, c'était pas du tout un physicien, hein, c'était un botaniste. Ça avait un siècle. Il avait découvert cette espèce de mouvement frénétique que ont les particules à très petite échelle. Mais ce que va montrer Jean Perrin, c'est que si on suit une particule qui suit son mouvement aléatoire, eh bien et qu'on regarde, qu'on fait une espèce de suivi stroboscopique, c'est-à-dire qu'on regarde à des temps différents, on fait des photos de où est-ce qu'elle est, on obtient une des trajectoires qui pourrait ressembler à une ligne brisée. Puis si on accélère, si on fait une stroboscopie mais plus rapide, c'est-à-dire à des instants plus courts, on obtient une ligne encore plus brisée et si on la zoome, on continue de revoir la même structure et ainsi de suite à des échelles toujours de plus en plus petites. Donc plus on fait de stroboscopie, plus la ligne est brisée et à la limite, bah cette structure, on verra plus tard qu'elle est modélisée aujourd'hui par un objet mathématique qui est un objet fractal, probabiliste, encore une fois, et le mouvement brownien maintenant, c'est au cœur d'énormément de recherches mathématiques. C'est un objet mathématique très clairement précis.
C'est important de revenir justement sur cet exemple avec Jean Perrin, Stéphane Jaffard, parce que par rapport aux autres objets qu'on a pu citer, on peut citer aussi la courbe de Van Coor, le triangle de Sepansky. Il y a plein d'objets mathématiques purs qui existaient justement, comme vous l'avez dit finalement, en contre-exemple de ce qui existait déjà. Là, c'est déjà un premier lien en fait entre ces monstruosités, donc monstre au sens mathématique du terme, et la nature.
Oui, absolument. Alors, il faut dire qu'effectivement, le mouvement brownien a un statut particulier parce que c'était, voilà, il n'a pas été construit pour être un contre-exemple, pour être quelque chose de bizarre. Il faut voir aussi qu'il a été, il est réapparu dans beaucoup de contextes assez intéressants d'un point de vue épistémologique. Hein, par exemple, Louis Bachelier, qui s'intéressait à l'économie, avait fait essentiellement, était pas loin de la construction correcte du mouvement brownien pour modéliser des cours de bourse. Hein, donc, on en reviendra sans doute aux applications finances un petit peu plus tard. Ensuite, il y a eu l'année Mirabilis d'Einstein. Il y a eu l'un de ses articles phares était un article de construction du mouvement brownien. Donc, c'est vrai que c'est un objet positif, je dirais, voilà, construit pour modéliser des choses et pas construit pour être des contre-exemples.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
J'aimerais qu'on puisse en venir maintenant au personnage, en fait, qui est Mandelbrot. Quelles sont ses influences? Pourquoi son parcours est si atypique? Et donc, pouvoir parler de quelques étapes cruciales de sa vie professionnelle et personnelle. Il est né le 20 novembre 1924 dans une famille juive polonaise qui émigre dans les années 30 en France. Ce qui est intéressant, enfin, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que l'oncle de Benoît Mandelbrot est lui-même mathématicien, Zolem Mandelbrot, et c'est l'une de ses influences. Potentiel. Et c'est pas n'importe quel mathématicien aussi, je pense que c'est important, Stéphane Jaffard.
Absolument. Donc, Zolem Mandelbrot était parti en France, avait émigré en France hein, quelques années avant les parents de Benoît Mandelbrot et donc Benoît lui-même. Et c'était un mathématicien polonais dans une tradition assez de mathématiques pures. Hein. D'ailleurs, il a toujours critiqué les mauvaises orientations de son neveu, mais il l'a quand même beaucoup influencé en même temps. Et notamment, c'est lui qui lui a signalé les articles de Julia, de Fatou, donc qui étaient des mathématiciens français du début du XXe siècle, qui s'intéressaient à ce qu'on appelle maintenant aux IFS, hein, c'est-à-dire au système de fonctions itérées. C'est-à-dire, on a une fonction. Donc il y a un nombre, donc là c'est plutôt des nombres complexes associés à un autre nombre complexe, et donc on regarde les itérées de cette fonction, c'est-à-dire on part d'un nombre complexe, on applique cette fonction, on arrive à un autre point dans le plan, puis à un autre point dans le plan, puis à un autre point dans le plan, et on continue indéfiniment, et on regarde ce qui se passe. Et donc les mathématiciens français au début du XXe siècle s'étaient beaucoup intéressés à cette dynamique, hein. C'est encore un domaine aujourd'hui très riche des mathématiques, mais évidemment, encore une fois, il n'avait pas d'ordinateur. Et donc, l'une des révolutions de Mandelbrot, ça a été de voir effectivement ce qui se passait. Et là, il y a eu des choses absolument magnifiques, des dessins absolument magnifiques qui ont fait la fortune des fractales. Donc, effectivement, l'un des grands mérites de Zolem Mandelbrot, l'oncle de Benoît, ça a été de lui indiquer ces choses-là, aussi de lui passer par hasard des articles qui lui semblaient à lui inintéressants et dont Benoît a fait son miel. Donc sa thèse notamment est partie de l'un des articles que lui avait passé Zolem. Mais il faut bien voir que Zolem Mandelbrot était, je dirais, d'une école très opposée à ce qu'a été Benoît. Hein. Il faisait partie des fondateurs de ce qu'on appelle le groupe Bourbaki, voilà, qui était quand même un un groupe de mathématiciens français qui voulait refonder les mathématiques.
Et c'est une sorte de société anonyme aussi, il faut le souligner, c'est assez intéressant.
Oui, c'est un groupe
qui existe encore.
Tout à fait intéressant, qui existe encore, mais voilà, qui à l'époque a eu une influence énorme sur les mathématiques, d'abord françaises et puis ensuite mondiales. Ils ont notamment rédigé ensemble une série de livres qui a effectivement, dont l'ambition était un peu démesurée, mais partiellement réussie. On vit encore très largement sur les bases qu'a établi Bourbaki et qui correspondaient pas du tout à l'esprit, comme on va le voir, de Benoît Mandelbrot, qui était plutôt un franc-tireur qui allait un petit peu butiner dans toutes les directions et pas du tout un rigoriste.
Et très éclectique. Marcel Filoche, justement, sur son début d'éducation ou sur sa thèse, quelles ont été un petit peu ses influences, comment est-ce qu'il a démarré finalement un petit peu sa recherche en mathématiques et quelles sont un peu ses inspirations?
Alors, je pense que il aimait lui-même à se traiter. Alors, Stéphane a dit franc-tireur, lui il disait maverick.
Oui.
Donc maverick, maintenant, grâce à Tom Cruise, on connaît le terme, mais c'est le mouton qui s'écarte du troupeau, qui va. Et c'était un peu ça, hein, Mandelbrot. Sur le ton de la plaisanterie, il disait les objets que les gens ont jetés dans la poubelle parce que c'était inintéressant, moi, je les reprends, je les remets sur la table et je les étudie. Et donc c'est ça vraiment qui a été sa richesse. Et il a commencé d'ailleurs par quelque chose qui était assez étonnant, parce que ce qui n'était pas du tout le mainstream mathématique, si je puis dire, il a commencé par regarder ce qu'on appelle la loi de Zipf, c'est-à-dire la distribution des mots, de l'usage des mots dans la langue. Et c'est la première fois qu'il met vraiment en évidence cette notion d'invariance d'échelle dans un endroit, et ça c'est ce qu'on va voir je pense plus tard, c'est que on a beaucoup parlé de géométrie et beaucoup de parlé de géométrie visuelle, mais la géométrie fractale, en fait, on la retrouve, et la notion d'invariance d'échelle, on la retrouve dans des choses très conceptuelles où il n'y a plus du tout de représentation géométrique dans l'espace. Et donc là, cette invariance d'échelle se traduit dans le langage, dans la loi de Zipf, où en gros, si on regarde comment les mots sont utilisés, on va trouver que le premier mot, il va être utilisé, je ne sais pas, si on fait un texte de 500 pages, le mot le plus utilisé va être utilisé 1000 fois, et puis le deuxième mot le plus utilisé, il va être utilisé que 500 fois, et le troisième que 250, et donc c'est pas du tout, il y a pas du tout un mot qui est utilisé, c'est pas du tout là ce qu'on appelle la courbe en cloche, où il y a toute une masse de mots qui sont utilisés de façon moyenne. Il y a au contraire cette répartition d'invariance d'échelle, et c'est comme ça qu'il va démarrer ses travaux, c'est là où il va faire sa thèse, où il va découvrir, et on n'est pas du tout dans des mathématiques analytiques standards telles que Soleil Mandelbrot aurait pu les aimer. Donc, faut voir qu'il a toujours travaillé, Mandelbrot a toujours travaillé avec les très grands, il a été postdoc de von Neumann, par exemple, mais il a toujours travaillé sur des sujets qui étaient un tout petit peu à la marge, quoi. C'est qu'il était entre les lignes, entre les disciplines. Ça a été sa richesse. Ça a aussi été, ça lui a été reproché parce que il appartenait jamais vraiment à
un camp. Justement, ce dont vous parliez sur la loi de Zipf, donc c'est lié indirectement au comportement humain et au principe du moindre effort. C'est soufflé par son oncle, justement, qui lui donne cette idée-là. On peut même rappeler que il devait faire une thèse en physique à Caltech, donc suivre finalement un chemin bien plus académique et logique. Et en fait, il ne fera jamais. Il part dans cette discipline un peu plus linguistique. Ce qui est intéressant, tout de même, c'est que là, directement, on voit que ça part d'une observation empirique, en fait. C'est peut-être ça qui séduit indirectement Mandelbrot, Stéphane Schaffer.
Oui, alors ça, c'est vraiment une constante de toute sa trajectoire. Ça a été de partir d'observation. Hein, c'est-à-dire, et notamment, ensuite... Je saute un petit peu dans le temps, donc il a été, il a passé l'essentiel de sa carrière dans un centre de recherche d'IBM. Et il avait la grande chance à l'époque, du coup, en étant à IBM, évidemment, d'avoir accès aux ordinateurs de tout dernier cri. Et comment il a fait ses principales découvertes? Ça a été en faisant ce qu'on peut appeler des expériences numériques, hein, c'est en simulant des choses, en regardant regardant ce qu'on obtenait, les images qu'il obtenait, et il a acquis une sorte de faculté visuelle qui l'a peu à peu forgé, justement pour au milieu de tous ces fractales qui peuvent avoir un peu la même allure de loin, à vraiment en comprendre les différentes caractéristiques. Et il appliquait également ça, je dirais, à toutes les sciences auxquelles il s'est intéressé. C'est-à-dire commencer non pas par la théorie, non pas par la modélisation, à se dire ce modèle-là, il est séduisant mathématiquement, donc je vais l'étudier, mais par l'observation. Et c'est ce qui lui a permis d'être, je dirais, très disruptif. Parce qu'il y a quand même des sciences où il y avait des modèles, on viendra à la finance sans doute un petit peu plus tard, où il y avait des modèles très bien établis depuis longtemps, et où il est arrivé en disant, mais regardez, ça ressemble absolument pas à ce que vous dites. Et là, ça a créé des fortes turbulences, on reparlera sans doute de la turbulence aussi, mais dans les différentes communautés, cette espèce de bon sens direct, qui avait été abandonné dans beaucoup de secteurs scientifiques, et notamment effectivement en modélisation financière, dans plusieurs parties des mathématiques appliquées, et qu'il a appliqué lui systématiquement.
Ce qui est intéressant, c'est que justement, il n'a pas un parcours linéaire. Il est parti au MIT, il revient en tant que poste en chercheur en 55. Il est maître de conférences en probabilité à l'université de Lille en 57. En 58, il est invité chez IBM en tant qu'expert en linguistique. Et en fait, il y restera toute sa carrière. Et on voit que c'est déjà intéressant de voir qu'il est expert en linguistique en tant que mathématicien chez IBM. Déjà, ça ne ressemble à rien d'autre en termes de carrière. Marcel Filoche, il y a un point peut-être qui me pose question, justement, il est chez IBM et ça veut dire qu'il a le temps pour faire des recherches plus théoriques ?
Oui, alors ça c'est... Il avait tâté de l'université et il avait trouvé que...
C'était pas son truc.
L'enseignement lui prenait beaucoup trop de temps et IBM c'est vraiment un cadre, je dirais, quasiment rêvé pour lui parce qu'il a à la fois le temps, il a les moyens... Et comme l'a dit Stéphane, il a les ordinateurs. Il faut bien voir que on parle de ces monstruosités, de ces objets très bizarres, très étranges, mais tant qu'on ne les avait pas vus, l'intuition avait très très peu de prise. Quand Weierstrass décrit sa fonction, si on la trace pas rapidement, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Quoi. Et on peut le faire dans quelques cas précis, mais dans énormément de cas, et notamment quand il s'agit de modéliser la nature, les choses deviennent très compliquées, les représentations deviennent très compliquées. Sans l'ordinateur, on peut penser qu'il n'y aurait pas eu ce développement et cette popularisation des fractales à ce rythme-là. Il faut bien voir que... Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans les fractales, c'est le temps qui a séparé la création du concept de sa mise en application dans énormément de domaines. Et donc ça, je pense que le fait pour lui d'avoir été à IBM, ça lui a donné le temps de jouer, de voir et de développer ces concepts.
Le temps et les outils, en fait, indirectement. En 62, il est invité par l'université d'Harvard en tant que professeur d'économie, donc nouvelle corde à son arc, ce qui est déjà très impressionnant, en fait, quand on voit sa carrière. Et là, il commence indirectement l'étude de l'autosimilarité par l'économie. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu cette idée-là, Stéphane Jaffa ?
Oui, alors effectivement, les économistes, à la fois les économistes théoriciens et puis ceux qui s'intéressent aux applications à la finance, sont des grands utilisateurs de ce qu'on appelle des processus aléatoires. Donc un processus aléatoire, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une fonction qui dépend du hasard. Donc on a déjà parlé du mouvement brownien, qui est l'exemple typique et sans doute le plus important des processus aléatoires. Donc c'est des fonctions qui semblent aller un petit peu dans tous les sens, qui n'ont aucune régularité. Donc le mouvement brownien, on a parlé tout à l'heure de ces fameuses courbes continues qui sont nulle part dérivables. Donc c'est le cas le mouvement brownien est un exemple typique, mais les économistes se sont vite rendu compte, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres sciences, effectivement, que c'était quand même un exemple très limité. Et notamment, il y a une personne, un mathématicien très important dont on n'a pas encore parlé, qui est Paul Lévy, voilà, qui était professeur à l'école polytechnique, qui a été le professeur de Benoît Mandelbrot, donc qui a eu directement une influence, et puis qui ensuite en a eu une plus tard, qui a construit des processus qui sont beaucoup plus, que Mandelbrot appellera des processus beaucoup plus sauvages, c'est-à-dire qui, au lieu d'avoir la gentillesse du mouvement brownien qui accepte d'être continu, eux sautent partout. Et voilà, ça c'est l'un des points importants. Mandelbrot s'est rendu compte que juste en regardant, encore une fois, comme disait Marcel, hein, juste vraiment en regardant les données, il s'est rendu compte que, par exemple, les processus des Lévy sont beaucoup plus adaptés à modéliser certaines données financières. En fait, il y a deux grandes idées qu'il a introduites. C'est effectivement le fait que les données financières sont plus irrégulières que ce que permet le mouvement brownien. Donc, il a utilisé fortement les processus des Lévy pour ça. Et par ailleurs, il a pas exactement introduit, mais disons, il a donné énormément de publicité à ce qu'il a appelé le mouvement brownien fractionnaire, qui avait été défini avant par Kolmogorov, qui était le grand probabiliste des années 30-40.
Sur la turbulence aussi.
Voilà, justement. Et qui a aussi travaillé sur la turbulence, on y reviendra. Et donc, l'un des vraiment des choses absolument remarquables de Mandelbrot, c'est qu'il s'est rendu compte que ce mouvement brownien fractionnaire, lui aussi avait été introduit par Kolmogorov, juste comme vraiment un exemple très théorique de processus qui avait certaines belles propriétés mathématiques, il s'est rendu compte qu'il était extrêmement pertinent pour modéliser énormément de choses. Donc ça allait des crues du Nil jusqu'à, enfin vraiment dans les sciences de la nature. C'est actuellement le brownien fractionnaire est constamment utilisé en traitement du signal, et il a l'intérêt par rapport au brownien d'avoir ce qu'on appelle des corrélations à longue distance. Et ça c'est une autre chose qu'il avait remarqué dans les données financières et que le mouvement brownien classique n'arrivait pas à modéliser.
Et là, il arrive vraiment avec ce concept d'autosimilarité. En 67, il va publier un article majeur, encore dans un tout autre domaine cette fois, la géographie. Il publie dans Science, donc dont le titre dont je vous ai traduit, « Quelle est la longueur de la côte de la Grande-Bretagne ?» Encore un autre sujet, Marcel Filoche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'il arrive finalement à cette question et puis surtout que contient son analyse ?
Bien, c'est encore une fois, en regardant le dessin des côtes, si on regarde, on prend maintenant avec les outils, on peut avoir des cartes quasiment à l'échelle qu'on veut informatiquement, on zoome tant qu'on veut. Ben si on regarde la côte de la Bretagne ou de la Grande-Bretagne, et puis qu'on la regarde à une échelle, disons où la largeur de la fenêtre fait 200 km, on va voir un dessin. Si on zoome, on va s'apercevoir que des morceaux qui avaient l'air d'être des lignes droites ou qu'on aurait pu prendre pour être des falaises droites, en fait, sont morcelés. Et donc, si on avait un mètre et que on mesurait la somme de tous ces petits segments de droite, on obtiendrait une longueur. Maintenant, si on zoome à une échelle plus grande et que on s'aperçoit qu'en fait, là où on mettait un segment de droite, eh ben, il faut en mettre beaucoup plus parce que c'est très morcelé, on obtient une longueur qui est un peu plus grande. Et si on continue de zoomer, ce processus se répète, et à chaque fois, la longueur grandit et jamais ne se stabilise. Et donc là, il y a visuellement le marqueur de, à la fois, un, la variance d'échelle, deux, le fait que vous pouvez avoir une ligne qui a l'air d'être brisée, dont vous pourriez prétendre qu'elle a une longueur, a priori, si vous la mesurez avec un mètre ou un double décimètre, mais en fait, vous n'êtes pas capable de définir proprement cette longueur, parce que si vous changez d'unité de, si vous changez de double décimètre ou si vous changez de longueur de référence, la longueur totale de la côte change. Donc ça, cette explosion fait que vous pouvez plus considérer l'objet comme un objet classique, comme vous disiez, si vous aviez un mètre ruban que vous dépliez, qui est un peu gondolé, mais vous savez très bien qu'il fait un mètre. Et ben là, la côte n'a pas de longueur. Elle n'a pas de la longueur au sens défini classiquement. Donc ça, c'est une énorme surprise. Et donc ça va être vraiment le travail fondateur de cette géométrie fractale.
Donc la longueur infinie, c'est une des caractéristiques finalement de ces objets fractales. Là, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il utilise un petit programme informatique pour pouvoir justement modéliser tout ça. C'est visuel. c'est dans la nature. Donc là, finalement, on a un petit peu toutes les bases. L'article est publié dans Science. Donc, est-ce qu'il va avoir une forme de notoriété par rapport à cet article-là? Ou en tout cas, est-ce qu'on va commencer à en parler, finalement,
Stéphane Jaffar? Oui, ça va être vraiment l'un des premiers articles qui va commencer à faire la réputation de Mandelbrot. Voilà, parce que, aussi, il n'a pas... je dirais la différence qu'on peut faire par rapport à cette remarque qui avait déjà eu déjà eu lieu. On a parlé de Jean Perrin, moi j'étais remonté même jusqu'au navigateur grec. Voilà, c'est que il y a le côté monstre, comme disait Mandelbrot, à un objet, il a une longueur infinie, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il va dompter le monstre, comme il aimait le dire aussi. Et voilà, ça va être l'aspect positif de ce papier qui va être vraiment nouveau. Il va dire, oui, cette longueur, elle est infinie, mais il va aller réellement plus loin. Il va dire, si je regarde effectivement quelle longueur je trouve en fonction de l'échelle à laquelle je me suis mis pour la mesurer, que ce soit l'échelle du mètre, l'échelle de l'hectomètre, l'échelle du kilomètre, etc. Voilà, et que je trace la droite, eh bien, je vois une loi de puissance. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, la longueur va être l'échelle que j'ai prise à une certaine puissance, et il va dire, ben c'est cette puissance, cet exposant, déjà, donc ça c'est une caractéristique de l'autosimilarité, hein, et donc c'est vraiment l'un des concepts phares qui va mettre en œuvre systématiquement. Cette loi de puissance, j'interprète comme une dimension. Alors, là aussi, il y avait eu les outils mathématiques avaient été développés depuis un certain temps, hein. Il y avait eu des travaux de Hausdorff et ensuite des tas d'autres personnes, mais voilà, qui n'avaient pas pensé à ces utilisations pratiques et à cette pertinence pratique. Et c'est vraiment le grand mérite de cet article, c'est de mettre bout à bout ces deux idées qui existaient chacune séparément, d'un côté chez les mathématiciens purs et de l'autre côté chez des scientifiques dans différentes idées. Et ce clash entre ces deux idées va vraiment avoir une importance énorme chez beaucoup de scientifiques.
Comment Mandelbrot invente-t-il le nombre fractal? Comment de très nombreuses disciplines vont se saisir de ces objets? C'est la suite de notre programme juste après ça.
C'est avec un air détaché que j'entrais chez le maraîcher, où j'allais de mon cœur sans crainte et sans peur chercher un chou-fleur pour ma sœur. Le maraîcher qui me reçoit me répond, je n'ai plus grand choix. Par contre, j'ai une fille qui voudrait gentille fonder une famille. Pour sûr, on ne s'était pas compris. Faut avouer que j'étais surpris. Je n'étais pas là pour épouser la fille du maraîcher. Oh là là, j'étais venu pour un chou-fleur, pour rendre service à ma sœur. Si la chose est franche, voulait ce dimanche le faire en sens blanche. Épousez ma fille, vous aurez tous les choux-fleurs que vous voudrez. Il y tenait dur le maraîcher, je vous jure, à caser sa progéniture. Répliquez, mais non, y a erreur, je ne suis là que pour un chou-fleur, que ma sœur veut faire avec du gruyère, comme l'aime mon beau-frère. Le maraîcher ne voulait pas s'aimer, ça a commencé à me l'échauffer. Vaut mieux que je me barre avant la bagarre, que je me dis car j'en avais marre. Et voilà que se pointe tout à coup ma sœur qui crie, qu'est-ce que t'es fou? Ça a fait plus d'une heure, j'ai mis chauffer le beurre et j'ai pas de chou-fleur. Bref, nous étions en situation d'engendrer une révolution, quand soudain se présente une femme charmante, polie, jolie et bienveillante. C'est ma fille, dit le maraîcher. Moi, en la voyant s'approcher, j'ai compris à l'instant qu'il était grand temps d'être consentant. On s'est mariés, oh quel bonheur! On fait beaucoup de petits choux-fleurs. Et comme chez Yver, chaque anniversaire, j'enfile une tonne à mon beau-frère. Écoutez-moi les amoureux, si vous désirez être heureux, allez-y de bon cœur, sans frais, sans douleur, mangez du chou-fleur. On s'est mariés, oh quel bonheur, on fait beaucoup de petits chou-fleurs. Et comme chez Yver, chaque anniversaire, j'enfile, donne à mon beau-frère. Écoutez-moi les amoureux, si vous désirez être heureux,
Allez-y, mon cœur, sans frais, sans douleur, mangez du chou-fleur. Popolo, 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 popolo.
Manger du chou-fleur de Gabriel Bach qui est sur France Culture, car du chou-fleur, il en a rarement été autant question dans une émission d'Histoire des Sciences. Vous écoutez les découvertes scientifiques qui ont changé le monde, avec aujourd'hui la découverte des fractales, en compagnie de Stéphane Jaffard, mathématicien dans l'équipe de recherche analyse harmonique et multifractale du LAMA à l'Université Paris-Est Créteil, ainsi que Marcel Filoche, directeur de recherche CNRS à l'Institut Langevin de l'ESPCI, au sein de l'Université Paris Sciences Lettres. On va écouter une archive de l'INA, de Benoît Mandelbrot sur l'invention du mot fractal. Nous sommes en 1984 sur France Culture.
Et les montagnes ne sont pas des cônes. Les nuages ne sont pas des sphères. La côte du Nil n'est pas un cercle. Les rivières ne sont pas des lignes droites. Donc, il fallait des formes géométriques beaucoup plus compliquées pour représenter ces formes naturelles. Eh bien, pour des raisons psychologiques sur lesquelles je peux revenir, mais enfin qui sont complexes, j'ai constaté qu'on pouvait, en extrayant une partie, en reconnaissant dans ce monde chaotique des mathématiques qu'il y avait une partie plus ordonnée, on pouvait l'organiser en nouvelle géométrie, et que cette nouvelle géométrie permettait de mimer la nature. Et que les imitations de la nature que nous faisions ainsi, les paysages artificiels, les nuages artificiels, peuvent être d'un réalisme extraordinaire. Dans ce chaos de la géométrie, on peut extraire un sous-ensemble, une partie qui est ordonnée. Cette partie-là, je l'ai extraite, j'ai eu le droit de donner un nom, choisi pour ce faire le terme que les Romains attribuaient à ce qui arrive à une pierre quand on la casse. Si on brise une pierre, ce qui reste est irrégulier et fragmenté. Eh bien, le terme latin était fractus, et de là, j'ai créé le mot fractal.
Il crée en 1975 le mot fractal, donc qui signifie à la fois brisé et irrégulier. J'ai lu dans une de ses interviews pour le magazine La Recherche, que j'invite tout le monde à aller lire, que ça faisait même un peu scandale parce qu'il donne un pluriel fractal au lieu de dire fracto. Donc c'est déjà, ça dit quelque chose déjà de sa personnalité, mais c'est déjà un tournant épistémologique de lui donner un nom, Stéphane Jaffard. Ça fait déjà plusieurs années en fait indirectement qu'il travaille sur ces objets. Là, de le nommer, c'est déjà une étape.
Oui, alors c'est quelque chose qui est fondamental en science et peut-être encore plus en mathématiques, hein, c'est de savoir quelles sont les bonnes notions, les bonnes définitions. Effectivement, le fait de donner un nom, ça fait apparaître ces objets que beaucoup de gens, on l'a déjà dit, avaient remarqué dans différents domaines. Et brusquement, on s'est rendu compte, d'une part, qu'ils étaient vraiment partout. Une fois qu'on sait ce que c'est qu'un fractal, on en voit partout quand on se promène dans la nature, à la montagne, quand on regarde le ciel, les nuages, on l'a déjà dit, les étoiles la nuit. Donc on se rend compte qu'ils sont vraiment partout. Et c'est en grande partie parce que Benoît Mandelbrot leur a donné un nom. Le fait de nommer les choses, ça leur donne une existence. Qu'avant ils n'avaient pas.
Il y a un point important sur cette année 1975 parce que c'est aussi l'année où il publie son ouvrage grand public, Les objets fractales, formes, hasard et dimensions chez Flammarion. Là, directement, on sort en fait finalement du champ de la recherche pour s'adresser au grand public. Marcel Filoche, c'est un point aussi crucial de la vie de Mandelbrot, c'est de dire que c'était un bon vulgarisateur et qu'en fait, directement, il a nommé ça et il l'a fait sortir du champ de la recherche des mathématiques.
Alors, c'était pas un bon vulgarisateur.
C'était pas un bon vulgarisateur.
C'était un excellent vulgarisateur. C'était quelqu'un qui savait exactement. Et l'invention du mot fractal, c'est un coup de génie. C'est parce que, non seulement il donne un nom, et donc il unifie tout ce qui avait l'air d'être disparate, un peu monstrueux, un peu bizarre, mais dans des domaines très différents. On n'aurait pas pu dire pourquoi des fluctuations énormes sur les marchés financiers pour avoir quoi que ce soit avec les nuages ou avec la distribution des fluides au sein des nervures d'une feuille. Lui, non seulement il donne un nom, mais il donne le bon nom. Et tout d'un coup, il montre à tout le monde. C'est la personne vraiment qui montre du doigt et qui dit aux autres, regardez, là, tout ça, c'est la même chose. Et là, c'est une révélation. C'est une révélation parce que, effectivement, bah, vous regardez les nervures d'une plante, et puis vous regardez la vasculature sanguine, ou les branches d'un arbre, ou les bronches pulmonaires, et vous apercevez que, effectivement, c'est plus... la notion de tuyau était pas bonne, la notion de droite était pas bonne, et tout d'un coup, la notion que Mandelbrot apporte unifie, avec très peu de paramètres, simplifie tout. C'est un peu au même niveau que si vous aviez, si personne avait jamais inventé la boule et était en train d'essayer de vouloir décrire le système solaire, celui qui arrive et qui dit, ben on va décrire les objets comme par des boules et leurs caractéristiques, ça va être le rayon. Eh bien, tout d'un coup, tout s'éclaire. Et là, c'est la même chose, mais avec la notion de dimension fractale que Stéphane a mentionné plus tôt. Donc vraiment, c'est une révolution et c'est, comme on disent les Anglais, eye opener, c'est-à-dire on ouvre les yeux.
Et est-ce que cette révolution, elle existe plutôt d'abord dans le grand public, c'est-à-dire le fait que cet ouvrage soit lu, réédité plusieurs fois, ou est-ce que cette révolution, elle a lieu aussi par le fait que certaines disciplines s'emparent directement ou rapidement de ces objets-là, Stéphane Jaffa ?
Alors,
est-ce qu'il y a une double vitesse ?
Elle va se faire à plusieurs niveaux. Oui, oui. Déjà, effectivement, les fractales vont devenir à la mode, dans le grand public, des journaux de beaucoup de journaux de vulgarisation scientifique vont parler de fractales. Les différentes disciplines vont être plus réticentes, hein. Elles vont pas s'emparer du sujet. C'est vraiment Benoît Mandelbrot qui va venir un petit peu les agresser. Elles vont se sentir agressées en disant, eh ben il faut remettre en question vos idées. Et il va publier, souvent avec beaucoup de mal au départ pour être publié, des articles dans des tas de domaines scientifiques différents qui auront du mal à être acceptés. Et il en souffrira bien sûr. Et ça sera une partie, je dirais, des relations conflictuelles qu'il aura avec le milieu académique. Et c'est pour ça que, comme le disait Marcel, le fait qu'il soit en dehors du système académique, à IBM, qui était quand même un endroit, je dirais, où il était protégé, où ils étaient juste très heureux d'avoir quelqu'un qui a la personnalité de Mandelbrot et qui est l'aura de Mandelbrot. Du coup, il était au bon endroit pour pouvoir un petit peu provoquer chacune de ces sciences et leur dire bougez-vous un petit peu, je vous apporte quelque chose d'important.
Ce qui ne devait pas être agréable pour ceux qui recevaient justement cette chose. On l'a évoqué en fait un petit peu tout à l'heure sur ce côté maverick, Marcel Filoche, mais ça veut dire que finalement les mathématiciens pensaient que c'était un physicien, les physiciens disaient vous êtes un mathématicien.
Oui, les économistes pensaient que c'était quelqu'un qui jouait. Et à chaque fois, pour vraiment transporter ses idées, il a fallu que une personne d'un domaine rentre en dialogue avec lui et transporte vraiment les idées. Et même à chaque fois, ça a été un combat. Mais il y a des domaines quand même où très rapidement, on s'est rendu compte que vous aviez une notion qui simplifiait énormément la description des objets, la compréhension des objets, leur modélisation, c'est-à-dire la manipulation des concepts sur le plan mathématique. Donc quand vous avez une montagne, dans son interview, il dit c'est pas un cône. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas dit grand-chose parce que vous dites alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien lui, il va dire c'est un objet dont peut-être la structure de base est un cône, mais qui a cette invariance d'échelle. Il va y avoir quand même relativement rapidement dans une diffusion de cette notion de fractal et cette géométrie nouvelle dans des cas où elle va énormément simplifier la description. Donc, par exemple, dans les problèmes de transport, optimal, de distribution fluidique, on s'aperçoit que il y a des fractales un peu partout. Quoi.
On va venir aux applications dans quelques minutes. Un dernier mot sur l'interdisciplinarité et peut-être le manque d'interdisciplinarité en fait dans n'importe quelle discipline scientifique. Là, on parle des mathématiques. Est-ce que ce manque d'interdisciplinarité est une caractéristique des mathématiques ou est-ce qu'en fait on le retrouve un petit peu partout, de tout temps en fait, que ce soit cette époque-là, ou même à la nôtre maintenant, Stéphane Jaffar?
Oui, alors l'interdisciplinarité, oui, c'est un grand problème, hein, c'est-à-dire les autorités un petit peu scientifiques, hein, que ce soit universitaires ou autres, voilà, ils aiment bien dire il faut encourager l'interdisciplinarité, c'est important. Ensuite, effectivement, la mettre en pratique, c'est beaucoup plus compliqué et souvent ça reste au niveau d'un discours. Encore une fois, ça a été l'une des grandes forces de Benoît Mandelbrot de pas être un universitaire justement, et c'est intéressant de voir que il a plusieurs fois essayé d'avoir un poste dans les différentes universités prestigieuses aux États-Unis. Bon, il a fini à Yale, mais voilà, je dirais essentiellement c'était une sorte de retraite dorée. Mais à chaque fois, il leur a fait peur. Il a été presque recruté à Harvard. Effectivement, vous l'avez mentionné sur un poste d'économie
et puis ils se sont rendus compte qu'il
allait publier un article dans un autre domaine. Ils se sont dit tiens, mais non, on va pas recruter un économiste, alors ça va pas, les gens du département d'économie ils vont pas être contents. Voilà. Donc effectivement, et s'il y avait ce genre de problème aux États-Unis, c'est encore bien pire en France, où effectivement les gens qui sont à cheval sur plusieurs disciplines, ils rentrent dans aucune case, ils sont difficiles à évaluer, on leur fait pas trop confiance parce on sait pas ce qu'ils vont faire demain, et c'est un problème qui persiste, même si on prétend qu'on fait beaucoup de choses pour favoriser l'interdisciplinarité.
France Culture. Ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Les œuvres mathématiques ou numériques d'Yvan Robiche exposées à la Galerie Gour à Bastia font partie d'un courant artistique, le fractal. Le fractal est un mouvement mêlant science, philosophie et art. Sa représentation, froide, sans aide glaciale, symbolise notamment le chaos de l'univers. Difficile de trouver des influences picturales, mais nul doute que nous sommes ici devant une œuvre forte et novatrice, utilisant quelque peu l'imagination et quelque part l'outillage informatique.
L'imagination, ça tient à moi. En ce qui concerne l'outillage informatique, ça se définit par l'outil, c'est-à-dire le prolongement de la main, et tout simplement ce qui me permet aujourd'hui de rentrer dans des choses qui sont pas possibles picturalement ou alors qui prendraient énormément de temps. Voilà. Et il n'y a aucune raison qu'on ne se serve pas des outils d'aujourd'hui. Et l'informatique fait partie de ces choses-là.
Yvan Robiche, diplômé des arts décoratifs à Strasbourg, vit en Corse et a signé il y a une quinzaine d'années le manifeste Fractalisation. C'est un des artistes les plus renommés dans ce domaine sur la scène mondiale.
Une archive de l'INA de 2007 sur Yvan Robiche et l'art fractal. Je trouve intéressant de se placer finalement entre l'art et l'informatique pour évoquer la beauté des fractales. Est-ce que cette beauté joue un rôle en fait dans la propagation des fractales, au moins pour le grand public, Stéphane Jaffar?
Ah oui, ça a été l'une des causes vraiment très importantes qui ont fait le succès des fractales, c'est-à-dire que quand Benoît Mandelbrot sort, donc on a mentionné son livre en français, hein, donc on peut faire un petit cocorico là, alors qu'il était aux États-Unis, hein, son premier livre a été écrit en français, et puis quelques années plus tard, en 82, il y a The Fractal Geometry of Nature, et c'est des livres qui vont être très illustrés. Et qui vont être, c'est assez intéressant par exemple, alors que le livre anglais s'appelle donc la géométrie fractale de la nature, il y a en fait très peu de photographies d'objets naturels, la quasi-totalité des planches sont des simulations numériques obtenues par Benoît Mandelbrot et son équipe, et qui sont souvent, alors qui ressemblent à des choses qu'on voit dans la nature, ils simulent des montagnes, ils simulent des lacs, ils simulent des côtes, ils simulent des... etc. Mais qui sont d'une... Justement, cette légère abstraction que fait la simulation numérique leur donne une beauté un petit peu surréaliste, et c'est quelque chose qui a fasciné. Alors, aussi bien le grand public que des mathématiciens, que des gens dans beaucoup de disciplines. Moi, je connais, je dirais, dans ma génération et celle légèrement avant, il y a eu beaucoup de vocations scientifiques qui sont nées à la lecture de ces livres de Mandelbrot, et des gens qui ont rêvé à partir de ces illustrations.
Marcel Filoche, sur cette question de la beauté, déjà, la beauté en mathématiques, elle est essentielle. On dit une belle équation, on dit même en physique une belle équation. Là, cette beauté a aussi un sens, autant pour l'aspect visuel que pour l'aspect irréel un peu de ses formes.
Oui, alors on peut se poser la question de pourquoi c'est beau. parce que en fait, le peut-être, et ça c'est quelque chose que Mandelbrot mentionnait quand on en parlait avec lui, peut-être que c'est beau parce que l'œil humain aime avoir des objets qui ne sont pas, qui n'ont pas seulement une échelle, qui ne sont pas un gros cube ou un petit triangle, mais où il y a une variété, il y a une variété de longueur, une variété d'échelle, et il mentionnait par exemple les architectures des bâtiments de du 18e ou du 19e siècle, dans lequel vous avez le grand bâtiment, et puis à l'intérieur vous avez des sous-structures, et puis vous avez des encorbellements, et vous avez des petites statues. C'est-à-dire que quelle que soit la distance à laquelle vous mettez de l'objet, il y a des choses à voir et des choses différentes. Et là il y a quelque chose qui et peut-être que c'est ça qui fait que il y a une quête perpétuelle quand on regarde l'objet de l'œil. Pardon.
Et il y a dans ce que façonnent finalement indirectement les hommes, mais il y a aussi sur la façon dont les hommes sont façonnés. On a parlé de beaucoup d'exemples. On va en venir juste après ça aux applications. Mais par exemple, si je prends un exemple en biologie sur les alvéoles pulmonaires, donc il y a ce phénomène d'autosimilarité, les bronches et puis les plus petites bronches et encore les plus petites bronches. Là, il y a aussi un sens physique en fait. Sans ces irrégularités, on ne pourrait pas respirer. Il y a un sens aussi biologique.
Alors. Le poumon est sans doute l'un des organes du corps humain et parmi les mammifères où la géométrie fractale est la plus saisissante, où il y a cette invariance d'échelle. Et alors on avait mentionné pour la côte de Bretagne le fait que si on la mesurait, on avait théoriquement, mathématiquement une côte de longueur infinie si on va dans l'objet mathématique pur. Mais les fractales sont effectivement, de la même façon que on loge dans une surface finie une courbe qui est entre guillemets une longueur infinie, eh bien avec la surface pulmonaire, on est capable de loger dans une cage thoracique de 10 litres une surface qui est de l'ordre de 100 mètres carrés. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé par la nature pour avoir une surface d'échange énorme entre l'air et le sang, et donc pour transférer l'oxygène. Donc la géométrie fractale, elle arrive là comme conséquence nécessaire de pouvoir à la fois avoir une énorme performance d'échange tout en gardant un volume raisonnable.
C'est essentiel. On va venir justement aux applications. J'imagine, Stéphane Jaffard, qu'il y a d'abord des applications peut-être en mathématiques un peu plus simples ou même en statistiques. J'imagine, quelles sont selon vous les applications les plus importantes justement des fractales ou celles qui sont
alors,
les plus compréhensibles?
Donc, je dirais l'apport de Mandelbrot en mathématiques, il s'est situé à plusieurs niveaux. Donc, d'une part, il y avait tout ce côté expérimentation visuelle qui lui a permis de conjecturer des propriétés de tas d'objets qui voyait, qui construisait avec son ordinateur. Ça a été d'une extrême richesse. Hein, si vous regardez, par exemple, depuis une vingtaine d'années, les médailles Fields qui sont attribuées donc tous les 4 ans au Congrès international des mathématiques, qui récompense 4 jeunes mathématiciens qui ont vraiment fait les découvertes les plus marquantes à peu près à chaque fois. Donc vous en avez une sur 4 qui est donnée vraiment à des conjectures qu'a faites Mandelbrot, à des objets mathématiques qu'a introduit Mandelbrot. Hein, donc par
on
exemple,
peut citer Hugo Dominique Coppin, Denis Sullivan, Wendelin Warner.
Voilà, absolument, Smirnov entre les deux, enfin, voilà, donc souvent des mathématiciens français, donc là aussi on est très content, parce que le domaine des probabilités en France s'est beaucoup développé sous l'influence des idées introduites par Benoît Mandelbrot, et effectivement, donc ça je dirais, il a eu une influence très forte sur les mathématiques fondamentales, hein, mais également si on regarde du côté des domaines des mathématiques qui sont plus appliqués, donc qui du coup sont en général pas récompensés, moins récompensés par des médailles Fields. Donc on avait mentionné les processus aléatoires et qui ont donc j'avais parlé de Paul Lévy qui a introduit une nouvelle classe de processus et il baigne maintenant, c'est une discipline qui baigne dans les idées de Mandelbrot, hein, la notion d'autosimilarité statistique que mentionnait Marcel tout à l'heure, effectivement, quelque chose d'absolument fondamental en probabilité. Il y a eu également des médailles Fields, hein, tout ce qui est autour des trajectoires rugueuses des processus, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. C'est complètement issu des idées de Mandelbrot. Donc on peut dire qu'il a une influence énorme sur les mathématiques telles qu'elles se font aujourd'hui.
Et sur les applications maintenant, si on sort du champ des mathématiques, je vais citer toutes les disciplines où on peut retrouver des fractales. L'astronomie, la géographie, l'hydrologie, la turbulence, la physique des matériaux, la géologie, la biologie, la médecine, l'économie, les statistiques, on en a un petit peu parlé, le traitement du signal et de l'image, ou encore la linguistique et l'environnement. Je vous laisse choisir, Marcel Filoche, un exemple qui, selon vous, est intéressant quand on sort du champ des mathématiques et on retrouve finalement ces fractales, mais en tant qu'application.
Donc, oui, alors Mandelbrot, il disait que lui, il développait la science du rugueux. Il avait, c'était l'étude de tous ces objets-là. Quand on regarde ce que l'homme fabrique, en général, vous regardez la table autour de vous, la chaise, les murs, tout est lisse. Les géométries sont simples. Quand on regarde, on se tourne vers la nature, les géométries sont très compliquées. Et notamment, on l'a partiellement mentionné avant, les systèmes de transport. Les systèmes de transport manifestent de façon extrêmement universelle cette notion d'invariance d'échelle. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin. Vous prenez, vous dites, voilà, vous voulez aller de chez vous à votre lieu de vacances, vous n'allez pas prendre vous n'allez pas prendre des petites rues qui vont aller de l'endroit où vous partez à l'endroit où vous arrivez. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une petite rue, puis après vous prenez une avenue, après vous prenez un grand boulevard, vous prenez une autoroute, et puis cette autoroute, à la fin, vous sortez, vous reprenez un boulevard, vous reprenez une avenue, vous reprenez une petite rue. Il y a vous retrouvez ça dans les systèmes de distribution, par exemple, ou de collecte fluidique. Vous regardez un fleuve. Un fleuve, on apprend à l'école que c'est quelque chose qui prend sa source là, et puis qui a son embouchure ici. Et entre les deux, on a l'impression qu'on a une petite ligne gondolée. C'est pas du tout ça. Un fleuve, c'est ça, plus ses affluents, plus les affluents des affluents, plus les affluents des affluents des affluents. Et tout ça, ça forme ce qu'on appelle un bassin de collecte. Et quand vous regardez, vu de très haut, cet objet-là, eh bien, il ressemble trait pour trait aux nervures d'une plante ou à la vascularisation d'un animal. Donc là, voilà, donc c'est un endroit où la notion de fractal, ne serait-ce que pour concevoir et puis pour manipuler ces objets, a une importance fondamentale.
Merci à vous deux, Stéphane Jaffard et Marcel Filoche, d'être venus nous raconter l'histoire des fractales. Merci également à Loïc Dutoit pour la préparation de cette émission, à Sam Bakiast à la réalisation et aujourd'hui à la technique, c'était Dalia. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On se quitte en musique avec Fractal Spirits de Soya.
The veil of remedy.